Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1972. Au menu, une croix de Lorraine en hommage à De Gaulle, les fesses de Paul Naref, le dramatique crash d'un avion de ligne dans la Loire et Jean Ferrat qui quitte la scène.
1972, Ondelat raconte sur Europe 1.
Quelques mois après le décès du général De Gaulle, ses fidèles ont l'idée d'ériger une croix de Lorraine dans son village de Haute-Marne, colombée les deux églises. Une idée que le général aurait sans doute approuvée.
Ce n'est pas une des dernières volontés du général De Gaulle, mais un vœu oralement exprimé à un visiteur de la Boisserie à Colombée. Qu'à sa mort, sur la colline qui domine le paysage, soit élevée une croix de Lorraine qu'on puisse voir de partout. Ce souhait est réalisé selon la décision de la famille et du comité du mémorial placé sous le patronage du président Pompidou et qui regroupe ceux qui furent les plus proches de la pensée de l'action du général depuis ce 18 juin où, comme il a écrit, il entra dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries.
Deux architectes sont immédiatement missionnés pour mener à bien cette opération. Et un an plus tard, ils dévoilent leur projet. Il est grandiose.
La hauteur fait 44,30 m. L'envergure du plus grand bras est de 19,16 m et celui du haut est de 14 m. Et le poids total de la fondation est de 950 tonnes. Nous avons 16 800 km de bronze et 100 mètres cubes de granit. Enfin, dans l'ensemble, la croix de Lorraine doit faire 1500 tonnes.
Cette croix de Lorraine est très imposante, au point d'ailleurs que certains se demandent si ça ne va pas être un souci.
On la voit de très très loin, on la voit d'environ 20 km à la ronde. Est-ce que vous pensez aussi que ce grand monument ne nuit pas à l'ensemble du paysage ?
Je ne pense pas. Dès l'instant où un architecte intervient dans un paysage, il apporte quelque chose de nouveau. Et comme c'est un monument, il faut que le monument, on le voit. Autrement, il n'a aucune raison d'exister.
350 personnes ont participé à la construction de cette croix de Lorraine. Ça leur a pris 4 mois, 118 jours exactement. Et le tout a été financé par une souscription.
Toutes les dépenses, actuelles et futures, sont couvertes par les 7 millions nouveaux de dons des souscripteurs.
Le montant des souscripteurs en France s'élève à 2 millions. Et nous avons constaté avec une certaine émotion que ces souscriptions ont été faites surtout par des modestes apports qui nous prouvent que beaucoup de modestes gens ont tenu à participer à cette souscription.
Vous voulez dire que les gens de conditions simples ont plus facilement répondu que des entreprises puissantes et installées ?
Nous pensons, c'est en effet notre constatation. Je dois signaler également la générosité des pays étrangers et plus particulièrement des républiques africaines, dont en tête le Sénégal.
L'inauguration est prévue le 18 juin 1972, date symbolique évidemment, choisie par Madame de Gaulle elle-même. Ce jour-là, 40 000 personnes débarquent à Colombey, les deux églises, pour assister à l'événement.
Les anciens compagnons anonymes du général se retrouvaient sur cette colline qui domine la plaine de Champagne. Certains d'entre eux s'étaient installés à 7h du matin, bien avant l'heure de la cérémonie.
Parmi les personnes présentes, des Français venus de tout l'Hexagone, mais pas que.
Je suis belge, mais du fait que j'ai vécu longtemps avec les Français dans les camps de concentration, alors je suis aussi français que les Français.
Vous êtes venu de Belgique pour cette cérémonie?
Oui, spécialement. Pour moi, c'est une... Je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose de formidable, parce que je suis lorrain et... Mes parents, on était annexés et on savait qu'on ne resterait pas sous la domination nazie, quoi, c'est tout. Le grand malheur, c'est que le général n'est plus là, quoi.
On vient de La Rochelle, nous. On est parti hier à 2h de La Rochelle, on est arrivé ce matin à 5h30 ici. On est venu au mois de novembre et spécialement, nous sommes venus pour ça. C'est magnifique, c'est tout, quoi. De la guerre, j'en connais rien, je connais des gens qui disent toujours « Bon, on a fait la guerre de Gaulle, moi je suis venu comme ça, en touriste, quoi, pour voir ». C'est tout.
Je suis de Paimpol et c'est fait avec du granit rose de Perros-Guirec.
C'est un monument que nous attendions parce que nous étions jeunes. Lorsqu'il a fait l'appel, nous n'étions pas encore peut-être dans l'âge de partir. Mais dès que nous avons pu, nous sommes partis en 1944 et nous attendions cette heure puisqu'il nous a porté la liberté, quoi.
Et c'est le président de la République, Georges Pompidou, qui prononce le discours inaugural.
La mort, mon général, vous le savez, la mort est un commencement. Votre légende commence à peine à prendre son vol. Et déjà, l'ombre de ses ailes recouvre la France. Et vers elle, et vers vous, monte et montera chaque jour davantage la reconnaissance nationale. Pour nous, sur qui pèse le terrible poids d'être ceux qui, après Charles de Gaulle, avons assumé la responsabilité du pays, nous faisons devant ce monument et sur votre tombeau serment d'être fidèles à la leçon que nous avons reçue de vous, tout pour que vive la France.
Une France qui se déplace ensuite en masse pour venir admirer cette croix de Lorraine. À la fin de l'année 1972, Colombey et les deux églises revendiquent 400 000 visiteurs.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Une belle histoire, chanson de Michel Fugain et de son Big Bazar.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En octobre 1972, le chanteur Michel Polnareff est à l'Olympia avec son spectacle Polnareff Révolution.
Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête. Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé.
Et sur l'affiche de son concert, Polnareff pose de dos, les fesses à l'air. Les fans adorent.
Ça me dérange absolument pas. Alors là, au contraire, je suis pour.
Moi, j'aime beaucoup.
Je trouve ça drôle, je trouve ça original finalement. Je vois aucun inconvénient.
Il a fait un super effort et c'est vachement bien. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Il a eu raison de le faire.
C'est tout à fait lui, de toute façon. Ça correspond bien à son caractère.
Je le trouve très coloré. Il y a une certaine recherche. Moi, je trouve que c'était bien.
C'est drôle, c'est coloré, c'est tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ça devient un sujet de débat national. La veille de sa première à l'Olympia, Polnareff s'en amuse.
C'est pas du tout par goût du scandale proprement dit. Disons que je trouve qu'une affiche, c'est quelque chose qu'on doit voir. Plus on voit quelque chose qu'on veut afficher, plus l'affiche est réussie. C'est uniquement une incitation au rire et au moins au sourire, ce qui, à l'époque actuelle, tient du miracle. Parce que je crois que faire rire actuellement est vraiment la chose la plus difficile à faire.
Est-ce que vous n'avez pas peur, malgré tout, de choquer vos admirateurs ?
En principe, les gens qui font ce genre d'excentricité, en général, sont des gens qui ont besoin de le faire parce qu'ils doivent cacher, disons, une musique faible ou quelque chose d'un petit peu négatif. Moi, je crois avoir fait de la bonne musique, je crois pouvoir continuer à en faire de la bonne, et je ne veux absolument pas avoir une tempête de compliments qui me fait passer pour un personnage papal. Et je veux absolument pas être un personnage papal, et c'est pour ça que je trouve que c'est le comble du luxe de faire de la bonne musique et de continuer à s'amuser.
Mais alors cette idée, d'où vient-elle ? Vient-elle de la maison de disques ? Non, répond Paul Naref, il dit que c'est son idée.
Oui, absolument, oui, c'est moi qui ai eu cette idée, parce qu'encore une fois, je trouve qu'une affiche, il faut qu'elle se remarque. Mon spectacle de l'Olympia est quelque chose qui est différent des autres spectacles qu'il y aura. Donc il faut que l'affiche, déjà, explique aux gens qu'il va se passer à l'Olympia quelque chose de différent de ce qui s'y passe d'habitude.
Oui, mais sur scène, vous ne serez pas comme ça tout de même.
De scène, je ne serai pas comme ça, parce que si je dois garder cette pause d'avant dans tout le spectacle, ce serait vraiment trop fatigant. Et de toute façon, je crois qu'on peut dire qu'on gagne toujours à être cul nu.
Fin octobre, Michel Polnareff est tout de même poursuivi pour attentat à la pudeur. Il est convoqué chez le juge. Et Europe numéro 1 le contacte à sa sortie.
Ben, il m'a demandé très exactement si d'abord il s'agissait de mes propres fesses, parce qu'il voulait savoir s'il s'agissait d'un montage, ou auquel cas il faudrait également qu'il interroge la personne à qui appartenaient ses fesses. Enfin, comme ce sont les miennes, donc je suis la seule personne responsable, et j'ai expliqué que je l'avais fait dans un but souriant, parce que je trouve qu'actuellement en France on rit pas beaucoup, et je trouve que finalement mes fesses sont quelquefois plus drôles à voir que la tête de certains autres.
Deux mois plus tard, l'affaire des fesses de Polnareff se termine donc au tribunal.
J'ai toujours dit j'ai fait cette affiche parce que je voulais qu'on en parle. Là-dessus j'ai parfaitement réussi. Disons qu'aujourd'hui le procès m'aide encore plus, puisque à nouveau on en reparle. Mais disons que je n'ai jamais fait quelque chose qui était pour moi contraire à la décence, puisque n'ayant pas moi-même la définition de la décence, je ne vois pas exactement ce qui est contraire ou ne l'est pas.
Tout à l'heure, le président du tribunal vous a dit est-ce que vous avez voulu faire une agression ou vous avez voulu faire un canular ?
J'ai voulu faire un canular, et je trouvais évidemment que le fait de simplement poser nu n'en était pas un, puisque ça avait déjà été fait. C'est pour ça que j'ai rajouté divers ustensiles pour en faire vraiment un canular. C'est pas du tout une agression.
Vous avez donc répondu au président que vous avez voulu faire un canular, et lui vous a dit est-ce que vous croyez que vous avez fait rire ?
Alors moi, là-dessus, je réponds que oui, j'en suis absolument certain, parce que on sait bien que je suis bien placé pour connaître les réactions du public. Je sais très bien lorsque je fais des erreurs, ça m'arrive lorsque je fais des erreurs, mais là, en l'occurrence, j'ai parfaitement ce qui s'appelle, comme on dit bêtement, réussi mon coup, et j'en suis content comme un jeune collégien qui a fait une farce. Je n'ai pas eu une seule fois une réflexion désagréable à propos de cette affiche.
Le chanteur est finalement condamné à une amende de 60 000 francs.
Il me reste, disons, une consolation, c'est de me dire que je suis la personne qui a les fesses qui valent le plus cher en France, puisqu'elles valent chacune 3 millions.
Beaucoup de gens ont ri en voyant votre affiche, peu s'en sont plaints, en tout cas un seul a porté plainte.
J'étais condamné par l'obsession d'une seule personne, et c'est manque de chance, cette personne est le procureur de la République. J'aurais de loin mieux compris, disons, que beaucoup de gens se plaignent, et que cette décision ne soit prise en considération qu'en fonction de milliers ou de millions de plaintes de gens. Donc là, j'ai la conviction que cette affiche a été un succès et que les gens l'ont aimée, mais il est bien certain que si on avait mis dans une balance le nombre de lettres, disons, de gens qui l'ont aimée, le nombre de lettres de gens qui n'ont pas aimé, le nombre de gens qui l'ont aimée est nettement supérieur à ceux qui ne l'ont pas aimée.
Mais au-delà, Polnareff voit dans cette condamnation le reflet d'une France pudibonde.
Je trouve qu'il est très grave de tuer les gens qui ont des idées, surtout lorsqu'elles ne sont pas méchantes. Je trouve que c'est grave parce qu'il y a deux solutions. Soit ces gens-là, on les abrutit et ils se découragent et ils disparaissent. Et je trouve ça dommage que des gens qui ont des idées disparaissent. Ou alors, on en fait des gens qui ont des idées de plus en plus révolutionnaires et qui deviennent quelquefois, qui rentrent dans un mauvais système. Holidays, oh, holidays. C'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe que la terre. Thank you.
Michel Polnareff avec son succès Holidays, sorti en 1972.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 27 octobre 1972, un avion d'Air Inter assurant la liaison entre Lyon et Clermont-Ferrand s'écrase sur le mont Picot près de Noirétable dans la Loire. Le bilan humain est très lourd.
Un avion d'Air Inter du modèle Vickers Viscount s'est abattu dans les monts du Forez à environ 1000 mètres d'altitude, un peu plus. Il se préparait à atterrir à Clermont-Ferrand quelques instants après. Sur les 68 passagers et membres de l'équipage, 59, hélas, sont péris, mais il y a aussi fort heureusement 9 survivants qui ont été hospitalisés.
Et c'est grâce à l'un des survivants qu'après plusieurs heures de recherche infructueuse, les gendarmes et les pompiers sont parvenus à localiser l'avion.
Vous vous êtes retrouvé où exactement après l'accident ?
Je me suis retrouvé au fond de l'appareil. J'ai eu la présence d'esprit de décrocher tout de suite ma ceinture quand l'appareil s'est retourné. Et puis je me suis redressé, et puis j'ai attendu, j'ai crié toute la nuit, parce que j'étais le seul à pouvoir crier et appeler du secours. Il y avait un trou dans la carlingue au-dessus de moi, et je criais, et à un moment donné, les gars m'ont entendu.
Un autre rescapé témoigne. Il raconte ce qu'il a vu à l'intérieur de l'avion.
Il y avait des blessés assez graves, mais il y en avait d'autres, par contre, qui étaient vraiment des miraculés, qui n'étaient pratiquement pas touchés.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors en vous voyant ?
Il y avait un homme qui était resté à l'arrière de l'appareil, qui voyage très souvent en avion, m'a-t-il dit, et il avait dit que depuis le décollage, ils avaient tout un tas d'avaries.
C'est-à-dire ?
Je n'ai pas demandé de précision. Ça, il pourra peut-être vous aider lui-même. Si vous le voyez descendre, il est encore sur les lieux là-haut pour l'instant.
Il n'était pas trop choqué ?
Très choqué, parce qu'il ne pouvait pas sortir de la carlingue. Bien que non blessé, il était tout de même très choqué ici.
Et le spectacle n'était pas trop horrible ?
C'était horrible, si, parce que les premiers corps que l'on a trouvés tout à fait au sommet, il y en avait très mutilés, d'autres pratiquement pas touchés, mais certains étaient très mutilés, c'était vraiment horrible.
Et les secours, après que vous ayez découvert l'avion, ils sont arrivés très vite ?
Les secours ont été mis en place très rapidement, mais alors pour accéder à l'endroit de l'impact, c'était vraiment terrible, parce que tous les chemins étaient, c'était des chemins de terre, et la plus proche des maisons était bien à 4 km, c'était vraiment horrible.
L'homme qui avait signalé ces avaries est lui aussi un rescapé, et c'est un habitué de la ligne.
C'est un appareil chez Air Inter, on n'a jamais eu de problème, quoi.
Quelle profession exercez-vous ?
Directeur commercial.
Donc vous êtes habitué à prendre l'avion ?
Je le prends, oui, 2-3 fois par semaine, quelques fois davantage.
Et celui-ci, vous n'avez vraiment pas paru anormal ?
J'en sais rien, parce que le temps était tellement mauvais qu'il est possible qu'il avait des difficultés, c'est possible. Sur le premier moment, d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait cet appareil, il y avait des difficultés, mais en réalité, je crois qu'il y avait surtout le mauvais temps.
Vous étiez en queue, l'appareil ?
Toujours, à Viscum, toujours.
Pourquoi toujours ?
En principe, quand on voyage souvent, on se met toujours du côté opposé au moteur.
C'est un principe bien établi ?
Oui, on a une chance, la preuve.
Les rescapés sont ainsi plusieurs à sous-entendre que quelque chose ne tournait pas rond. Et c'est aussi l'avis de cet autre passager.
L'appareil ne volait pas comme d'habitude, j'ai eu cette impression-là.
Le vol était normal ?
Non, le vol était peut-être pas tout à fait normal, mais il n'y avait rien qui pouvait présager ce qu'il y avait.
L'avion était à 9 minutes de Clermont, quand, en fin de compte, on n'a plus eu de nouvelles. Il a fait demi-tour ou quoi ?
Non. Il a dû se passer quelque chose, puisque d'après des pompiers ou des cultivateurs du coin, il aurait allumé ses phares à plusieurs reprises. Donc il était peut-être désemparé pour...
Personne n'avait peur dans l'appareil ?
Personne ne s'est rendu compte, c'était un peu le temps, hein. C'est tellement rapide.
Quand vous vous retrouvez, vous, comme ça, est-ce que vous avez pu réaliser quand même ?
Oh oui, j'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais une chance inouïe. Une chance, une sur 1000. Qu'est-ce que je dis ? Une sur 1 million.
Et vous reprendrez l'avion maintenant ?
Bien sûr, j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai pas d'autres moyens.
Une autre rescapée raconte, elle aussi, n'avoir jamais vécu un vol similaire.
Entre Lyon et le lieu de l'accident, il y avait des perturbations atmosphériques. Enfin, c'était la première fois que je ressentais des secousses pareilles dans un avion. À ce moment-là, l'avion faisait des hauts et des bas, on partait à droite et à gauche. Et vraiment, ça a été terrible du point de vue secousse.
Et vous aviez peur ?
On n'était pas tranquille. Moi, je ne suis pas, disons, je ne prends jamais mal au cœur dans l'avion ou quoi que ce soit. Enfin, je me cramponnais pour ne pas aller d'un endroit, et pourtant j'étais bien attachée, pour ne pas aller à droite et à gauche, parce que vraiment...
Mais les hôtesses vous ont expliqué ce qui se passait ?
On nous a simplement dit, je crois, au début... qu'il y avait des perturbations atmosphériques et qu'il fallait garder nos ceintures.
La mauvaise météo pourrait être en partie responsable. Mais il semble qu'il y ait eu aussi des problèmes de moteur. C'est en tout cas ce que pense cette passagère.
J'étais assise hier dans l'avion, puis tout à coup les lumières sont éteintes. Puis alors ça a été la panique, et puis alors l'avion a plongé, Il a rasé les arbres, il s'est disloqué, puis il s'est retrouvé coincé. Il ne pouvait plus rien faire.
Certaines personnes ont dit qu'avant que l'accident se produise, il y avait déjà eu dans l'avion, disons, du remue-ménage. Est-ce que vous en souvenez de ça?
Oui, il y avait des ratés dans le moteur.
Depuis le départ?
Depuis le départ.
Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient avec ces ratés des moteurs?
Ben, on ne faisait pas bien attention.
Vous n'avez pas eu peur?
Ben non. Je me disais qu'ils nous porteraient bien jusqu'à Clermont.
La catastrophe, proprement dit, ça s'est produit très rapidement ou est-ce que vous avez eu conscience qu'il se passait vraiment quelque chose d'affreux?
Ouais, ça s'est passé très très rapidement. Le temps s'est arrêté, puis on est tombé. Alors il y a beaucoup de personnes qui se sont prises de panique, et puis alors on s'est retrouvé plus que 6 dans le compartiment. On était dans un sorte de bloc, sans dessus dessous, et puis on voyait pas le jour.
Une fois que l'accident s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais on a attendu 6 heures avant que les sauveteurs arrivent. On s'est assis, on pouvait pas bouger parce qu'il y avait des blessés.
Il y avait beaucoup de blessés autour de vous?
Oui, il y en avait 3. Puis un petit enfant qui était pris sous une banquette.
Cette rescapée se rendait à Clermont-Ferrand pour quelques jours de vacances. Des vacances désormais compromises, à son grand désarroi.
Tu es venu pour combien de jours ici?
Pour 5 jours.
Et en fait, vous pleurez surtout parce que vous vous dites les vacances, c'est fichu, quoi.
Bah oui. Parce que 3 jours, ça vaut pas la peine.
Mais d'un côté, vous devriez être très très heureux d'être sorti indemne de cet avion.
Bah oui, mais j'aime pas être à l'hôpital.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment une miraculée de cet accident?
Ah oui, je veux pas rester à l'hôpital. Je suis miraculée, je vois pas pourquoi j'y resterai.
Parmi les rescapés, il y a aussi un enfant de 4 ans qui voyageait seul. Son papa, un médecin, raconte.
Vous êtes allé tout de suite sur les lieux de la catastrophe?
Affirmatif.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé là? Vous l'avez trouvé comment, votre fils?
Le médecin de Noir Étape était sur les lieux depuis de nombreuses demi-heures. Et dès mon arrivée, il a pu me confirmer qu'un petit Sylvain était vivant. Et les survivants avaient été mis à l'abri. Et grâce au ciel, mon enfant n'ayant rien.
Il vous a reconnu?
Bien sûr, tout de suite. Qu'il voulait rentrer à la maison tout de suite. Et nous avons pu, avec notre confrère de Noir Étape, bientôt aidé par un médecin de Montbrison, je crois, prodiguer nos soins aux personnes les plus handicapées, les plus touchées.
Votre fils voyageait seul, ce qui arrive maintenant quand même souvent pour des enfants. Et est-ce que maintenant vous le laisseriez encore partir seul comme ça en avion?
Je pense que dans l'immédiat, la chose est exclue. Lorsqu'il en manifestera le désir et que les circonstances s'y prêteront, il n'y a pas de raison pour que nous ne le fassions pas.
Sur les 9 rescapés, un décède à l'hôpital des suites de ses blessures, ce qui porte à 55 le nombre de victimes de cette catastrophe. L'enquête révélera qu'il s'agissait d'une erreur de navigation du pilote à la suite de la panne d'un radio compas. Mais les analyses toxicologiques du commandant de bord et de sa copilote révéleront également un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1972, le boxeur Jean-Claude Boutier est un sportif très en vue. L'année précédente, il a été élu champion des champions français par le quotidien L'Équipe. Et en ce mois de juin 72, il s'apprête à combattre son rival argentin, Carlos Monessone. S'il remporte ce match, il sera le 11e français depuis 1920 à remporter un titre de champion du monde.
Est-ce que vous arrivez en ce moment à ne pas penser au match?
Enfin, je ne peux pas ne pas y penser.
Sans arrêt.
Non, pas sans arrêt, j'arrive quand même à oublier un peu, mais je veux dire, c'est très difficile.
Qu'est-ce que vous pensez de votre métier?
C'est un métier qui est très court, puisque ça ne peut durer que entre. Enfin, moi, pour mon compte personnel, ça fait. Mon professionnel, ça fait 7 ans, j'ai peut-être encore, je sais pas, peut-être un an, peut-être 6 mois, peut-être 3 ans, j'en sais rien, mais vous voyez, 10 ans. Alors, on peut difficilement parler de métier, puisque ça dure que 10 ans. Mais enfin, disons que. C'est un sport et quand on le fait professionnellement comme je le fais, j'en pense beaucoup de bien parce que ça m'a apporté tellement de choses. Les voyages, des rencontres avec des gens, de l'argent, et je fais du sport. Donc, comme je l'aime, c'est fantastique. Non, j'ai vraiment, c'est une aventure extraordinaire que je suis en train de vivre.
La rencontre a lieu en région parisienne, à Colombes, au stade Yves Dumanois. Les sommes dépensées par les organisateurs sont colossales. 650 000 francs pour avoir Monesson et 500 000 pour avoir Jean-Claude Boutier. Quant au prix des places, il s'élève à 500 francs pour les premiers rangs. L'ancien boxeur Charles Humez, en tout cas, croit à la victoire du Français.
La faiblesse qu'il peut avoir avec Monzon, c'est que Monzon, c'est un roc, c'est un bulldozer qui va avancer, qui va frapper et qui est un puncher. Ouais. Hein, c'est le truc à savoir, si Boutier pourra tenir le coup autour de 10 ou 15 rounds, mais s'il tient 15 rounds, je crois que Boutier va gagner.
Le 17 juin 1972, 35 000 personnes se sont réunies dans le stade pour encourager Jean-Claude Boutier. Mais au dixième round, le combat tourne court. Boutier a pris le pouce de son adversaire dans l'œil. Jean Bretonnel, son manager, raconte.
Au dixième round, il boxait plus que d'un œil. Il a pris un coup de pouce dans l'œil. Il a pris un autre au onzième. C'est pas volontaire, j'accuse pas Carlos Monzon, mais il a des très grands bras. Il a un pouce très long. Et en donnant son direct du gauche, malheureusement, d'ailleurs tout le monde l'a vu, je crois que pendant le dixième round, il ne savait plus du tout. Il voyait plus Monzon, pratiquement. Il le voyait dans un brouillard. Il tombait sur les coups, il le frappait à l'aveuglette, vous comprenez. Alors vraiment, j'estime que c'était trop dangereux de le laisser boxer de cette façon-là. Surtout, je sais que Jean-Claude est un champion du monde en puissance. Et ce serait ridicule, à la suite d'un accident, de risquer de briser sa carrière, qui s'annonce absolument merveilleuse.
Bretonnel demande alors à Boutier d'arrêter. Et à l'appel de la 13e reprise, le Français s'exécute.
Je m'attendais à quelque chose de très, très difficile. Je l'ai eu. En plus, j'ai pris deux coups de pouce dans l'œil. Je ne voyais plus depuis deux rounds de l'œil gauche.
Est-ce que c'est cela qui a motivé votre abandon?
Monsieur Jean n'a pas voulu que je continue avec ça parce qu'il voyait que je prenais plus de coups qu'avant. Il m'a dit, ça va, c'est pas la peine, vous aurez de nouveau votre chance.
Vous étiez d'accord avec votre manager?
Il a toujours été de bons conseils, je ne vois pas pourquoi même aujourd'hui j'aurais changé, je ne l'aurais pas écouté.
Avez-vous le sentiment d'avoir boxé avec la plénitude de vos moyens, tel que vous vous étiez préparé?
Oui, mais j'ai boxé, oui, j'étais en pleine position de mes moyens, mais il y a une chose, c'est que à mon avis j'ai très mal boxé, enfin, c'est pas grave. C'est fini maintenant, c'est trop tard.
Vous vous faites des reproches en ce moment?
Oh, j'ai pas encore eu le temps. Je vais analyser mon combat tout à l'heure. Je suis très déçu, quoi. C'est normal, je voulais tellement donner ce titre à tout le monde. Tout le monde croyait.
Tout le monde y croyait, en effet. Mais ça n'empêche pas de comprendre l'abandon de Jean-Claude Boutier. C'est le cas de Jean-Paul Belmondo, par exemple, présent ce soir-là à Yves Dumanois.
Honnêtement, je pense que Bretonnel a bien fait d'arrêter Boutier parce qu'il était très... il a été marqué à l'œil, il était fatigué, les coups de Monzon rentraient de plus en plus. Et je pense que Boutier n'avait plus aucune chance de gagner, il avait beaucoup trop de retard pour moi, de toute façon. Il reste champion d'Europe et continuer devant un type qui frappe aussi fort que Monzon, diminué et fatigué, c'était trop dangereux.
Quelle impression vous a faite Monzon?
Monzon, il m'a fait une impression très très forte. Il a toujours coupé la route à Boutier et il va très très vite de bras. Et il a un sens de l'esquive aussi très fort parce que Boutier n'a jamais pu d'abord passer sous cette gauche, il a toujours été embêté. Et quand il arrivait à passer, Monzon esquivait. Il y a eu que ce sixième round, là où quand Boutier a été touché, il est arrivé à toucher aussi Monzon en fin de parcours. Mais c'est à peu près le seul moment pour moi où il a eu une petite chance. Et je crois qu'il y avait ce soir, en tout cas, il y avait une place au-dessus, il ne pouvait rien faire.
Malgré son abandon, Jean-Claude Boutier est très présent cette année-là dans les médias. Ce que certains, d'ailleurs, ne sont pas loin de lui reprocher.
J'ai des obligations professionnelles, ça fait partie un peu de mon travail. En plus, ça, je travaille pour une maison et je fais partie des relations publiques, donc je dois me rendre à ces cocktails. Mais en plus, ça fait très plaisir. Et si quelquefois aussi on me voit dans les premières de l'Olympia ou un truc comme ça, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir aussi. Je ne vais pas chaque fois, je suis invité chaque fois, mais je n'y vais pas chaque fois. Ce qu'il y a évidemment, Boutier, ça se voit maintenant. Quoi. Avant, j'allais quand même au spectacle, j'allais au théâtre, j'allais enfin, évidemment moins dans les cocktails, mais ça ne se voyait pas, quoi. Personne ne faisait attention à Boutier. Quoi.
Est-ce que parmi tout cela domine toujours en vous le sentiment de demeurer avant tout dans les normes sportives?
Oui, absolument. Enfin, ce qui me concerne, moi, les autres me considèrent peut-être autrement, mais moi, pas. Moi, je me considère comme un sportif, un athlète, et puis c'est tout. Quoi.
Vous n'êtes pas tenté par la vie de façade, la vie superficielle?
Non, surtout superficiel, non, alors absolument pas du tout. Alors. Non, on peut se laisser, aller un petit peu. Il y a des fois, Disons que c'est tentant de se trouver en compagnie de telle ou telle personne, mais comme c'est superficiel, donc ça vaut pas le coup.
Jean-Claude, pour vous, la boxe, c'est avant tout un moyen d'obtenir la gloire, de briller, de vous faire plaisir, ou un moyen de gagner de l'argent, pour sortir définitivement du rang?
C'est un moyen de me faire plaisir, d'abord, parce que j'adore le sport et la boxe en particulier. Et puis, puisque je suis professionnel, c'est un moyen de gagner de l'argent, comme tous les gens qui travaillent. Et puis c'est tout.
À la fin de l'année 72, Alain Delon propose à Boutier de venir s'entraîner dans sa propriété de Touchy, dans le Loiret. Boutier accepte et Delon organisera la revanche contre Monet-Sonnet l'année suivante. Un combat que Boutier perdra de nouveau, mais cette fois au poing. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. C'était Elton John avec Rocket Man en 1972.
On de la raconte. Christophe Ondelatte.
En 1972, Jean Ferrat est un chanteur qui se montre très rarement dans les médias. Du coup, sa participation en février 72 à la nouvelle émission de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier, est un événement. Le principe du Grand Échiquier est simple. Tout tourne autour de l'invité principal. En l'occurrence ici, Jean Ferrat. Les autres personnes présentes sur le plateau dressent son portrait. Ici, Eddie Barclay, son producteur.
Eddie Barclay, pensez-vous que Jean Ferrat est un chanteur en marge?
Non, il n'est pas. Enfin, il est en marge dans ce sens que le texte, là, alors, prend une grande valeur. Il a des idées précises sur la société, sur les conventions, sur la façon dont doit se comporter l'être humain, etc. C'est ce qui s'appelle un chanteur engagé, si vous voulez. Mais c'est un grand artiste, car en dehors de ce genre de chansons, il est capable de faire des chansons d'amour absolument fantastiques.
Mais si la plupart des invités sont là pour encenser l'artiste, Jacques Chancel n'hésite pas à en faire parler d'autres qui sont moins fans. Par exemple, ce soir-là, Marie Laforêt.
Marie Laforêt, que pensez-vous de Ferrat?
Ou bien on s'engage réellement à fond, c'est-à-dire qu'on va au Biafra, qu'on va faire ce qu'on peut, mettre des pansements ou amener des boîtes de conserve, enfin, je sais pas, on s'engage complètement, mais presque profiter d'un courant, d'une certaine publicité, pour en faire une chanson, ça me paraît un peu indécent. Ça m'énerve de l'entendre parler de la guerre d'Espagne ou de Potemkin. Enfin, je veux dire, c'est un espèce de vol, une espèce de vol historique. Peut-être qu'il est particulièrement fasciné par tout ça, certainement du reste, mais ça me paraît un vol. Tous ces problèmes sont infiniment plus graves qu'une chanson. On ne résout pas un problème en 2 minutes 35 de 33 tours, c'est pas vrai.
En plateau, la réaction de Jean Ferrat est cinglante.
Je ne sais pas très bien si Marie Laforêt s'est rendue compte de la gravité des propos qu'elle a tenus à mon égard. Je ne sais pas très bien si elle a mesuré le fait qu'en mettant en doute mon honnêteté, en fait c'est ça, intellectuelle et morale, mon honnêteté d'artiste, elle m'adressait la pire des injures.
Elle était franche.
Elle a été franche. Mais à ce genre de propos, à cette mise en accusation qui montre l'étendue de son intelligence et de sa culture, je ne réponds que par le mépris.
De toute manière, nous ne pouvons pas continuer sur ce sujet puisqu'elle n'est pas là. Mais en tout cas, elle vous a dit des choses.
Moi, je lui en dis certaines.
Vous lui rendez ces choses. Voilà.
Le Grand Échiquier étant avant tout une émission de divertissement, Jean Ferrat interprète ce soir-là son titre le plus célèbre, La Montagne.
Ils quittent un an à le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de main sur les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer?
À 41 ans, Jean Ferrat est au sommet de sa gloire. Et contre toute attente, il annonce qu'il arrête la scène. Les concerts prévus à l'automne au Palais des Sports de Paris sont les derniers. Et le 6 octobre 72, Europe numéro 1 est là pour le dernier tour de piste.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Lors de ce récital, Jean Ferrat interprète des chansons qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme celle-ci, Camarade.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bal, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire, quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir.
C'était Jean Ferrat avec sa chanson « Camarade » lors de son tout dernier concert au Palais des Sports en 1972. La suite de notre exploration de l'année 1972 dans le troisième épisode.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.